On continue notre belle petite étude sur apprendre des choses sur Jésus, approfondir les écrits, parce que là-dedans, dans les écrits qui ne changent point, qui sont les mêmes depuis 2000 ans, la Bible n'a pas changé depuis 2000 ans. Les écrits sont les mêmes, puis les enseignements qu'il y a dedans, c'est les mêmes que voilà 2000 ans. Puis la Bible nous dit, elle nous le dit à plusieurs passages, restez dans ce qui est écrit, allez pas au-delà de ce qui est écrit. Bien important, parce qu'il y a beaucoup de monde qui invente toutes sortes de théologies, toutes sortes d'enseignements qui ne sont pas bibliques. Surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui, il n'y a pas grand pasteur qui parle de ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, ce message-là, c'est négatif. C'est négatif. Ça fait peur au monde, puis le monde, les pasteurs veulent souvent dire puis prêcher des affaires qui encouragent, qui bénissent. Positif. On veut pas entendre les choses qui pourraient ça graffine quand ça passe. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé que Jésus, c'est le juge des nations. Mais j'ai aussi spécifié, c'est le juge des vivants et des morts. On a parlé beaucoup du jugement des morts, des gens non sauvés, des gens qui sont pas à Jésus. Mais là, aujourd'hui, on va voir l'aspect du juge des vivants. Que Jésus, c'est le juge des vivants, c'est dit dans la parole, mais comme je vous disais tantôt, là, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, que notre vie est dans un sens passée avec surveillance. C'est pas sans surveillance, c'est avec surveillance. Dieu regarde ce qu'on fait une fois qu'on est chrétien. On va regarder ensemble certains passages qui vont nous amener à prendre conscience là-dessus, puisque je crois que le but de ça, c'est de nous amener à avoir la crainte de l'Éternel quand on marche sur cette terre. C'est sûr qu'il y a un verset qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Oui, quand tu marches dans l'amour parfait, t'as pas de crainte, c'est sûr. C'est pas quand tu es correct que ça t'a à craindre. C'est quand tu es tenté dans les choses qui sont pas correctes. C'est ça qui nous amène à une crainte. Puis, dans la parole, ça nous le dit de marcher avec crainte. Jésus nous en a parlé, les apôtres, avec, parce que Dieu regarde ce qu'on fait sur la terre pendant qu'on est chrétien. Le titre aujourd'hui, c'est le chrétien puis le jugement de Dieu. On a vu que la venue du Messie était pour venir juger les nations. Ça, on le dit souvent, il va juger les coupables, puis à la fin, c'est les temps de feu pour ceux qui sont perdus. Mais c'est aussi écrit que le Messie jugerait son peuple.
Amen.
Amen. Pourquoi pas? Déjà, s'il dit qu'il va donner des récompenses, là, c'est parce qu'il a fallu qu'il regarde ce qu'on fait. Ça, de ce côté-là, on n'a pas de problème. On est prêt à dire, oui, Seigneur, on veut toutes les récompenses. Mais est-ce qu'il y a un côté aussi qui n'est pas content, puis qui serait sévère, puis il voudrait serrer la vis, puis il voudrait peut-être des fois nous donner une claque en arrière de la tête ou un coup de pied en arrière? Peut-être. Tu sais, parce que c'est notre Père, puis on va voir des versets, justement, qui nous parlent de cela. Dans Hébreux 10, le verset 30, ça dit, « Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est écrit dans l'Ancien Testament, ça. Mais là, c'est repris dans le Nouveau que nous connaissons que ça a été dit. C'est des écrits que Dieu jugera son peuple. Puis là, il ajoute, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce passage-là, quand tu écoutes ça, là, ça sème de la crainte. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça sème de la crainte. Puis là, tu veux te redresser puis marcher les oreilles molles. Le corps droit, comme mon père disait, le corps droit puis les oreilles molles. Quand tu sais que Dieu va te juger, Dieu va, il juge chacun de ses enfants, il juge son peuple. Autant qu'on va voir aussi une idée avec un verset qu'on va voir tantôt, que Jésus dit « Je ne suis pas venu pour juger, ou celui qui vient à moi n'est point jugé, il ne vient pas en jugement, mais est-ce qu'à quelque part dans ta vie, tu vas l'être jugé? » Oui, parce qu'il dit « Le Seigneur jugera son peuple. » Le Messie est venu pour donner une possibilité aux méchants de vivre. Jusqu'à là, on en a profité. On était des méchants avant de venir au Seigneur. Faut pas penser que c'est parce qu'on était des bons gars qu'on est venu au Seigneur. On était tous des méchants, tous des pécheurs, tous des gens qui méritaient le jugement de Dieu. Mais Dieu voulait pas qu'on périsse. Il voulait qu'on change de voie puis qu'on vive. Il veut bénir tout le monde. Il veut pas qu'aucune personne se ramasse dans l'étang de feu. Fait qu'il est venu pour nous donner une possibilité à nous, les méchants, de vivre. Dieu veut pas que les méchants périssent, mais ils veulent qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Puis c'est encore plus pour ses enfants. Quand tu es venu à lui, il t'a pris dans ses bras, puis il t'a accepté comme l'enfant prodigue qui est revenu dans les bras de son père, puis son père l'a serré dans ses bras, puis il a donné l'alliance, une robe neuve. Puis dans ce parabole-là, ça démontre le fait de quelqu'un qui est enfant de son père, puis qui s'éloigne, puis il est perdu, puis là, qui décide de revenir. Puis nous, quand on est venu à Dieu, il nous a pris comme cela, dans ses bras, puis il est content, il attendait juste ça, qu'on retourne à lui. C'est la même chose pour chacun de ses enfants. On est ses enfants. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'aime pas ses enfants? T'aimes tes enfants. Tu veux le meilleur pour tes enfants en temps normal. Dans Ézéchiel 33, verset 11, ça dit « Dis-leur ». C'est Dieu qui parle. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meure. » C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu veut que tout le monde vive devant lui, que tout le monde soit en communion avec lui, que tout le monde se ramasse avec lui pour l'éternité. Dieu prend pas plaisir à punir les gens. C'est ça qui est le but. Dieu prend pas plaisir à punir à cause de sa justice. Il est juste, il a déclaré des affaires, ça va arriver tel que c'est dit. Mais il veut pas les punir, mais il a pas le choix. C'est ça qui arrive. Dans ce verset-là, il nous invite, « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Il est en train de parler à son peuple. « Pourquoi vous allez mourir? Revenez, revenez, marchez avec moi. » C'est ça que Dieu veut, il ne veut pas punir personne. Puis ça, il faut comprendre ça, c'est la même affaire aujourd'hui avec la vie chrétienne. Dieu veut pas punir aucun de ses enfants. Faut bien avoir ça dans la tête. Il nous aime, puis il aime ça quand on est avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça être avec Dieu? En contact avec, là, rempli du Saint-Esprit. C'est ça, là, le but, là, d'être comme ça. Mais quand on l'est pas, puis qu'on s'égare, puis qu'on marche dans le péché, on n'est pas rempli. Fait que Dieu est pas avec nous, il approuve pas ce qu'on fait. Puis il nous demande tout le temps, revenez, revenez, pourquoi je serai obligé de vous punir? Il veut pas. Il veut que le méchant vive. Puis nous, il veut qu'on reste dans la vie. Amen. Tous les chrétiens étaient sous les conséquences du péché. C'est pas quelque chose que je vous apprends, là. On était tous des pécheurs. Puis il nous a accueillis. Puis lorsqu'une personne se convertit au Seigneur, elle n'est pas jugée par le Seigneur sur son passé. Dieu, il nous voyait là, depuis qu'on est au monde, tous les péchés qu'on a faits dans notre vie jusqu'à temps qu'on vienne à Jésus, il veut pas te juger puis te condamner. Il sait que tu étais perdu. Ben là, tu reviens. Il t'accepte tout de suite. Il te pardonne, puis il te purifie, puis il veut te montrer qu'il t'aime. C'est ce que ça nous dit dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Non, c'est pas ce verset-là. Ah oui, c'est celle-là. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Puis il vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Fait que quand tu viens à Dieu, tu te repens, là. Tu viens pas en jugement, Dieu ne juge pas, il te prend tel que tu es parce que tu es repentant. Tu regrettes, il t'accepte, puis tu es passé de la mort à la vie. Ça parle d'un contexte de conversion, ce verset-là. Faut pas penser qu'à cause que c'est écrit, il vient pas en jugement, qu'après, quand il est revenu au Seigneur, qu'il n'y aura jamais de jugement. Ce verset-là s'applique pas pour la vie complète du chrétien. Ça s'adresse juste quand il se convertit. Il passe de la mort à la vie. Voyez-vous? Parce qu'il faut bien mettre les versets dans leur contexte, parce qu'il y en a qui pensent qu'avec ce verset-là, qu'il n'y a aucun jugement du Seigneur sur les croyants. Ce verset-là s'adresse à une conversion. Il n'y a pas de jugement. Dieu te prend tel que tu es repentant, puis il pardonne ta vie, puis tu es passé de la mort à la vie. Voyez-vous? En demeurant en communion avec le Seigneur, puis en marchant avec lui, on demeure en Jésus. Tu viens à lui, tu es passé de la mort à la vie, puis si tu demeures avec le Seigneur, en communion avec lui, c'est ça qui est le point. Tu demeures en Jésus. Là, nous sommes pardonnés et sauvés. Romains 8, 1, regardez bien ce verset-là. Quand tu es en contact avec le Seigneur, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es en lui, lui est en toi, puis toi tu es en lui, il n'y a pas de condamnation. Il te condamne pas. Ça ne veut pas dire qu'il te juge pas. Ça ne veut pas dire qu'il te serre pas à vis. Mais il te condamne pas. Voyez-vous? Le fait d'aller à Jésus nous assure d'être sauvés. Même si tu es un chrétien boiteux. Mais si tu demeures chrétien, tu demeures en communion avec Jésus en boitant, spirituellement parlant, tu as de la misère, tu n'avances pas, quasiment pas. Au moins, tu marches avec le Seigneur, tu gardes la foi, tu continues à marcher avec lui, mais tu as de la misère, tu n'es pas condamné. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne sera pas obligé de serrer à vis dans ta vie en te jugeant. C'est ça qu'on veut établir, qu'il y a une différence entre un chrétien qui marche rempli de l'Esprit, puis qui il marche toujours dans la volonté de Dieu, lui, il n'a jamais de punition, tandis qu'il y en a d'autres, des fois, ils peuvent avoir des punitions de la part de Dieu. Ça ne fait pas de toi un condamné avec le reste du monde. On va voir les versets qui parlent de ces différences-là. On est averti par Pierre que les chrétiens ne doivent pas marcher comme le reste du monde. Parce que quand tu deviens Jésus, tu rentres dans une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance-là, avec lui, il te pardonne, puis il dit, je te donne mon esprit, je veux demeurer avec toi éternellement. Puis c'est ça qu'il nous dit dans la parole. Puis là, marche avec moi. Là, il dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Puis là, les bénédictions sont là. Mais ça nous dit aussi dans cette alliance-là que quand tu es chrétien, tu peux plus marcher comme tu marchais auparavant. Tu peux plus marcher comme le monde marche sans Dieu, puis dans le péché par-dessus la tête. Le chrétien, il rentre dans un combat, veut pas, comme je vous disais tantôt, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes s'est passé, voilà, toute chose est devenue nouvelle. Fait que cette nouvelle vie t'amène à plein de changements, puis tes changements qui t'amènent à de plus en plus conforme à ce que Dieu veut pour ta vie. Fait que tu peux plus marcher comme tu étais avant. Tes péchés que tu faisais avant, là, mais tu combats contre. Tu résistes. Tu chasses les mauvais esprits qui te tentent, puis qui te tiennent captifs, puis qui t'as un combat là, qui se fait veut pas parce que tu as deux natures en toi. Tu as la nouvelle nature puis ton ancienne. La nouvelle veut faire mourir le vieil homme, mais veut pas, faut que tu apprennes le combat, puis tu peux plus. Tu voudras plus, en principe, marcher comme tu étais avant. Tu vas vouloir marcher dans cette nouvelle vie qui est de la liberté, de la joie, de l'amour, remplie de l'esprit. C'est une autre vie complètement. Puis dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 3, ça nous explique ça. C'est assez, en effet, d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens. Avant d'être chrétien, là, on accomplissait la volonté des païens. On était des païens. En marchant dans les dissolutions. La dissolution, là, c'est les débauches, les perversions sexuelles. Dans une vie, là, lousse, on parle de corruption, puis on rit de ça, puis on agit dans l'immoralité, dans les débauches, on couche avec une puis avec l'autre, des échanges de partenaires. On vivait dans dissolution avant d'être chrétien. Les convoitises, les désirs impurs. On parle pas je désire quelque chose de bien, là, c'est pas ça. Là. On désirait des choses de mal. On était dans l'ivrognerie, des excès du manger, du boire, les idolâtries criminelles, parce que dans les idolâtries, c'est condamné par la Bible, mais en plus, les idolâtries criminelles, c'est qu'il y en a des fois qui offraient leurs enfants à sacrifice à des démons. C'est encore le maximum des perversions. Imaginez. Bon, on marchait dans ces choses-là comme le monde. Puis là, il s'est dit au verset 4, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche? » Là, ils comprennent pas comment ça se fait qu'on ait pu attirer d'aller avec eux. Ils comprennent pas pourquoi qu'on s'accule, qu'on veut plus se saouler, qu'on veut plus courir les débauches, courir les clubs, puis se coucher avec une puis avec l'autre. Ils comprennent pas pourquoi que quand tu es chrétien, tu n'es plus pareil. Parce que ça, c'est la nouvelle vie qui fait ça. Ça t'amène à une vie de sainteté et de pureté, cette nouvelle vie-là. Puis là, ils vous calomnient. Les gens du monde vont nous calomnier parce qu'une vie d'un chrétien est complètement différente au courant de ce monde. Puis là, le verset 5, regardez bien le verset 5. Les gens du monde, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Les gens du monde vont avoir à rendre compte de leur corruption, puis aussi du mépris, du jugement, des calomnies qu'ils ont pu faire contre les chrétiens qui combattaient et qui essayaient de résister aux péchés de leur chair puis de ce qu'il y a dans ce monde. Mais comme qu'on peut vraiment comprendre dans ce verset-là qu'un chrétien n'a pas sa place à vivre comme le reste du monde. On est différent. On n'est plus de ce monde, même si on est encore dans ce monde. Il y a une nouvelle nature, la nouvelle nature de Dieu qui est en nous puis qui nous amène dans des choses qui sont complètement différentes à ce qu'on était auparavant. Ça, c'est normalement qu'un chrétien n'est plus comme avant. Mais quand que des chrétiens faiblissent spirituellement puis commencent à vivre comme le reste du monde, là, il y a un problème. Puis Dieu nous voit, là. Puis Dieu veut pas nous perdre. Comme je disais tantôt, il veut pas que le méchant meure, il veut qu'il vive. Puis là, c'est là qu'on rentre dans l'idée qu'il faut pas penser que nous, les chrétiens, nous sommes à l'abri de tout jugement. Le Seigneur juge ceux qui pêchent puis qui ne demandent pas pardon. Ceux qui n'ont pas de repentance dans leur action, ils se repentent pas. Tu sais, quand tu es dans la prière du Notre Père, ça dit « Pardonne-nous nos offenses ». Ça veut dire qu'un chrétien, ça en fait des offenses. Puis, Jésus nous a enseigné que quand tu pries, dis ça à Dieu, « Pardonne-nous nos offenses ». Il a dit « Voici comment vous devez prier ». Puis ça, c'est un des sujets de prière qui devrait être dans nos prières à tous les jours. De demander à Dieu pardon, de nous pardonner de nos offenses, parce qu'on en fait toutes des choses qui offensent Dieu, même quand ça fait 40 ans que tu es chrétien. En réalité, c'est un « ouch » qu'on devrait dire, parce qu'on veut pas vraiment que ça arrive, mais quand que ça arrive, c'est « aïe aïe ». On veut pas, Seigneur, pécher, on veut te plaire tout le temps. Dans Hébreux 12, le verset 5, là, regardez bien dans le contexte comment Dieu, pourquoi Dieu punirait un chrétien quand il marche tout croche. Il dit, avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. L'exhortation, c'est ça. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Oups! Là, on parle de Dieu qui nous appelle ses fils. Il parle à ses fils et ses filles, les enfants de Dieu. Ça nous dit, méprise pas le châtiment du Seigneur. Un châtiment, c'est une punition. Méprise pas les punitions du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ça veut dire, un chrétien va se faire reprendre par Dieu quand il y a de quoi qui marche pas. Sinon, on ne changera jamais. On ne changera jamais. Si on se fait jamais reprendre par Dieu, quand je vais changer sur ces choses-là? Faut, il nous le dit dans notre esprit. Il nous le montre que telle affaire, c'est pas de lui. Il veut qu'on soit conscient. Si tu n'as jamais entendu ou tu n'as jamais senti que tu te faisais comme reprocher quelque chose, il y a un problème. Parce que on va le voir dans ces versets-là, Dieu châtie tous ceux qu'il aime puis qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu veut te le dire, veut nous le dire à chacun de nous quand il y a de quoi qui ne marche pas, parce qu'il veut qu'on avance dans notre vie chrétienne. Pas parce qu'il nous aime pas parce qu'il veut nous perdre. C'est un châtiment paternel. Il nous dit, au verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. » Si vous avez senti des fois que c'est Dieu qui vous a serré la vis dans votre vie, serre un bras, comme mon père des fois, il nous pognait par le bras, il s'est bien ici. Là, on a... Il me pognait par le bras, puis « Assieds-toi là, là! » Je disais pas un mot. Mais Dieu fait la même chose à ses enfants. Si j'avais jamais senti ça, mais demandez au Seigneur pourquoi, peut-être qu'il vous l'a fait, puis vous n'en êtes pas rendu compte, mais quand tu appartiens au Seigneur, il châtie tous ses enfants quand ils sont pas corrects, quand ils sont désobéissants. Il dit... Là, je commence à amener des lunettes. Là. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, puis il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ça veut dire, veut pas, les chrétiens passent au jugement. S'il te reprend ou s'il te châtie, c'est parce qu'il a analysé, il t'a regardé, puis il a analysé qu'il y a des choses qui ne marchaient pas dans la vie du chrétien. Puis tous les chrétiens passent par là. Si ça, comme je vous disais tantôt, si c'est jamais arrivé de toute votre vie chrétienne, il y a un problème. Faut se trouver pourquoi. Parce qu'il dit, au verset 7, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? On a tous chicané nos enfants quand ça marchait pas. Mais il dit, il n'y en a pas de père normalement qui châtie pas. Puis notre Père Céleste veut nous châtier pour qu'on participe à ses bénédictions. Puis là, le verset 8, il revient à ce que je vous disais tantôt. Mais si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous ont part, vous êtes donc un enfant illégitime et non des fils. Tous ont part. Il n'y a pas un ici qui a jamais reçu une claque par le Seigneur. C'est différent, les claques, de la manière qu'il les donne. Je ne dis pas qu'il nous bat, là. Mais des fois, il coupe des bénédictions. Il coupe sa relation avec toi. Tu ne ressens pas autant. Tu as de la misère. Tu vas chercher le Seigneur. Tu t'enfermes. Il y a plein d'affaires négatives qui t'arrivent. Puis c'est pas nécessairement le diable. Vous allez le voir tantôt dans d'autres versets. C'est pas nécessairement le diable qui fait que vous avez des problèmes dans vos vies. C'est le Seigneur qui serre la vis parce qu'il veut qu'on s'arrête puis qu'on se repente parce qu'il veut pas qu'on périsse. Il veut nous conduire dans le bon chemin. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, puis nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus, à forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Si on endurait le châtiment de nos parents, puis on les a respectés, on devra accepter les châtiments du Seigneur parce que lui fait ça pour notre bien. Il sait bien plus que nous autres ce qui est bon pour nous. Au verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Envoie dans ta chambre. » Ça, c'est des punitions. « Envoie à genoux dans le coin. » C'est d'autres genres de punitions. « Envoie dans ta chambre. » C'est toutes sortes de punitions que j'ai subies. Je ne sais pas si tout le monde les a subies. Puis on les méritait. Fallait avoir une chambre. Si t'as pas de chambre, t'envoyais à genoux dans la cuisine. Il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Afin qu'on participe à sa sainteté. Le but, c'est la vie éternelle. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Quand tu te fais punir, tu pognes un down, ça c'est sûr. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a du fruit au bout de du châtiment. Quand ton enfant marche droite après parce qu'il a été repris, il a compris sa réprimande, puis là, il fait attention, il te respecte, il t'envoie pas promener, il dit pas des conneries, puis il fait pas des choses graves, là. Mais t'es content de lui, puis tu vas même le récompenser plus souvent. Le Seigneur garde tous ses enfants, puis il juge ceux qui écoutent pas. Par des maladies, par des souffrances, afin que les gens ne soient pas condamnés avec le monde. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu sert la vie. Je te dis pas que toutes les maladies qu'on a vécues viennent de châtiment du Seigneur. Pas ça que je dis. Mais il faut pas penser qu'il y en a jamais. Il y en a. Il y en a que c'est des conséquences du fait qu'on est privé de l'arbre de vie. C'est sûr qu'il y a une détérioration dans la génétique, là. Mais ton père, il avait un problème. Toi aussi, tu te retrouves avec les mêmes problèmes. La génétique est affectée avec le temps. Il y a des conséquences de la vie terrestre, là. Tu as eu un accident de char, tu as mal dans le dos. Normal, tu vas avoir un mal dans le dos. Ça veut pas dire que c'est un jugement du Seigneur, un accident. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas un accident voulu par le Seigneur. Il faut tirer instruction. Ça dit au jour du bonheur, ça dit d'être dans la joie, mais au jour du malheur, réfléchis. Pose-toi des questions, pourquoi que ça ne leur a pas arrivé. Puis si tu réalises que c'est une chose que tu as faite, ou des choses que tu fais depuis longtemps, puis que ça pourrait être le Seigneur, demande pardon. Demande pardon, parce que Dieu, des fois, il serre la vis avec des maladies. Pour pas qu'on soit condamné avec le reste du monde. Le monde, dans le monde, là, eux autres, là, ils marchent tout croche, puis la condamnation les attend à la fin. Mais nous, qui veut nous amener dans la vie éternelle, bien, il est obligé de serrer la vis pour nous redresser, puis qu'on soit sûr d'entrer dans la vie éternelle. Fait que ça coûte rien de demander pardon puis de se repentir quand on réalise qu'on a des choses qui déplaisent à Dieu dans notre vie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30, ça nous dit de cela. C'est pour cela que parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Un grand nombre sont morts. Puis dans ce verset-là, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, on ne sera pas jugés. Si tu seras jugé toi-même, puis tu as vu que tu as fait un péché, puis tu demandes pardon, tu t'es jugé toi-même, bien, tu n'es pas jugé par le Seigneur dans ce temps-là parce qu'il voit ta repentance. C'est quand tu ne l'es pas repentant, puis tu continues à marcher tout croche, mais là, attends-toi de manger une mornif. Il dit, même il y en a qui sont morts à cause de cela, imaginez. Il dit, si on jugera soi-même, on ne sera pas jugé. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu règle ses comptes tout de suite, il te donne des punitions pour que tu restes un enfant de Dieu qui est corrigé par le Seigneur. On prend par exemple Saphira et Ananias dans la Bible. Eux autres, ils ont reçu un jugement sévère. Ils ont juste compté une menterie. Puis Dieu les a Il a enlevé la vie automatiquement. C'était le commencement de l'Église, puis Dieu voulait que les gens aient la crainte du Seigneur. Puis il leur a montré le Seigneur qui était pleinement conscient de ce qui se passe dans la vie des croyants. Puis ces deux croyants-là, eux autres, c'est un homme et une femme, mariés ensemble, qui sont accordés ensemble pour continuer de mentir aux apôtres, pour faire de l'hypocrisie dans l'Église. Puis ils ont vendu une propriété, ils ont retenu la moitié de l'argent, puis ils ont dit aux apôtres, « Tiens, on vous donne tout l'argent qu'on a eu pour vendre notre propriété. » Ils ont juste compté une petite menterie, une menterie blanche. C'est un des 10 commandements de Dieu, le mensonge. Dieu veut pas qu'on mente, tu ne porteras point de faux témoignages, c'est un des 10 commandements, mais Dieu fallait qu'il monte son autorité, puis comment est-ce que lui, il en laisse pas passer. Pour semer la crainte dans le cœur des gens, il a frappé Ananias, puis après il a frappé Saphira, ils sont morts tous les deux en comptant leur menterie. Mais, comme qu'on a vu tantôt, c'est le Seigneur qui les a châtiés pour pas qu'ils soient condamnés avec le reste du monde. Mais faut pas penser qu'on est mieux que Saphira et Ananias. Comment est-ce qu'il y en a de chrétiens qui ont compté des menteries dans leur vie? Puis qui n'ont pas été châtiés. Peut-être que le Seigneur a serré la vis dans quelque chose dans votre vie à ce moment-là. Peut-être vous en êtes rendu compte, peut-être vous n'en êtes pas rendu compte. Mais il y a une chose qui veut nous amener, ça n'a pas compté de menterie. C'est un des 10 commandements de Dieu. Tous ces commandements, il veut qu'on les respecte. Puis il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça que Jésus a dit. Ça veut dire que un chrétien, quand il vit en voulant pas être comme qui était avant d'être chrétien, il va s'efforcer de pas compter de menterie. Puis si ça arrive un jour que t'en dis une, mais tu vas demander pardon au Seigneur tout de suite, tu vas le sentir que c'est pas correct. C'est la même chose que de prendre le nom du Seigneur en vain, en sacrant, ou en faisant l'adultère dans nos pensées ou dans nos agissements. Il faut pas que ça arrive, des affaires de même, d'aller d'un temple d'idole, ou peu importe lequel des péchés, là. La Bible, quand tu lis la Bible, tu en aperçois qu'il y en a toutes les sortes de péchés, que Dieu veut pas que ses enfants marchent dans le péché. Ça l'affecte notre relation avec le Seigneur. Puis il faut pas attendre que le Seigneur nous serre la vis. C'est ceux qui sont pas repentants, peut-être que c'était des habiles menteurs, eux autres. C'était des gens qui passaient le temps d'en faire des menteries, ça le dit pas. Mais ils ont reçu un jugement. Si on veut vivre vieux, ben, on est mieux de marcher droit avec le Seigneur. Mais je dis pas que si tu meurs jeune, que c'est à cause que t'as été puni. Non, je dis pas ça non plus. Faut pas être à l'extrême, ni sur un bord, ni sur l'autre. Mais, la crainte de Dieu. Marcher droit avec le Seigneur, ça nous amène que les bénédictions de Dieu. Un autre exemple de cela, de jugement du Seigneur, c'est l'apôtre Paul, que lui, il n'a pas subi un jugement à cause qu'il était pécheur. Lui, il a subi un jugement préventif pour le prévenir, pour pas qu'il tombe dans un péché, à cause que lui, il a eu tellement de grandes révélations. On va le voir dans le texte, ça le dit. Il y a eu des grandes révélations, puis il dit, à cause de tout ça, il m'a été mis un écharpe dans la chair pour le garder humble. C'est comme un jugement que le Seigneur, il avait analysé sa vie, puis il a dit, lui, si je fais pas ça, il va s'énorgueillir, il va se penser bon, puis il va se penser meilleur que les autres, puis il va marcher tout croche. Il va s'égarer. Il a été mis cette écharpe-là dans son corps, un problème dans sa vie, puis manger des claques à la gueule par un esprit qui a été mis là dans son corps. C'est ce que ça dit. Je vous dis ça en québécois, là, mais c'est parce qu'on comprend plus que Dieu peut en donner des claques quand il veut nous garder humbles, voyez-vous. Alors regardez bien dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Paul, il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Paul avait compris que son problème, c'était pour le garder humble, pour pas qu'il s'enfle, parce qu'il savait que ça rappelle. Il a peut-être ça, cet effet-là, lui, de se penser bon. Ça arrive peut-être à des chrétiens que sais, ils vivent tellement de belles affaires que ça les élève en dedans d'eux autres. Puis Dieu est obligé de faire de quoi pour les garder au bas niveau. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il y a eu des révélations. Il était ravi au troisième ciel, dans la présence de Dieu. Même chose que l'apôtre Jean. Ça ne nous dit pas que l'apôtre Jean, que lui a eu de quoi dans sa chair, mais lui en a eu. Puis ça lui a été révélé, puis il nous le dit à nous pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde invisible quand on comme dans cette situation-là. Ça dit, il m'a été mis une écharde dans la chair. Une écharde, là, c'est quand tu travailles, tu manipules du bois, puis tu plantes un morceau de bois dans le doigt ou dans la main. Ça, c'est une écharde. Mais lui, il dit, pour pas que je m'enfle d'orgueil, il m'a été mis un écharde dans la chair, dans son corps. Il vivait de quoi dans son corps pour le garder humble? Alors, regardez bien, il m'a été mis un écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffléter. Mangeait des claques d'en face par un esprit qui était après lui. Pour m'empêcher de m'enorgueillir. Voyons, il y a une petite mouche fatigante. Pour pas qu'il se pense trop bon, il a été mis un ange de Satan dans son corps pour lui donner des claques d'en face, pour le garder humble. Puis il l'a compris. Parce qu'au verset 8, suite après, il dit, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Seigneur, enlève cet esprit-là qui me frappe, qui m'achale, qui m'agresse, qui me... » Tu sais? Trois fois il a prié, puis là Dieu il a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Puis là, lui dit, « Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Parce que si ça ramait à s'enorgueillir, la puissance de Dieu aurait été moins grande dans sa vie. Puis là, Dieu, pour le garder humble, il a mis un ange de Satan dans son corps pour le souffleter. Il a prié Dieu, puis Dieu l'enlève, puis Dieu a dit non, ça va rester là. Quand t'es dans cet état-là, tu es dans un état humble, puis tu vas rester de même pour que tu apprennes à rester petit dans ta tête puis à t'accrocher au Seigneur. Imaginez ce gars-là qui est rempli de l'esprit puis il chasse les démons dans la vie de tous les autres, puis lui, il y en a un dans son corps qui n'est pas capable de se débarrasser. Mais il était là parce que Dieu voulait qu'il soit là, puis ça le gardait dans une position qui était nécessaire. Puis des fois, on les chrétiens dans l'Église, c'est la même affaire, on peut avoir des choses qui sont là, que Dieu sait à 100% qui sont là, mais Dieu permet que ça soit là, ça a un but. Puis mec, il décide que ça n'a plus nécessaire, tout ça va disparaître de ta vie. Mais ce qu'il veut voir dans ta vie, c'est que tu t'accroches à lui, puis tu comprennes qu'il y a ta vie entre ses mains, puis c'est lui qui décide du résultat. Reste accroché au Seigneur, perds pas courage lorsqu'il te reprend. Il veut te montrer des affaires, reste avec lui, puis garde la foi, puis t'es dans la bonne place quand même si tu vis des affaires. Dieu veut nous parler. Faut apprendre à écouter, puis à comprendre son message. Mais il nous forme avec tout cela, pensez-vous que Paul n'a pas compris des affaires en disant ça, puis peut-être qu'il jugeait moins les chrétiens à cause de ça, parce que lui, il vivait ça, puis que là, lui, il était capable à cette heure de comprendre qu'un autre peut avoir un problème dans sa vie, puis c'est Dieu qui a permis ça pour son plan, pour sa gloire, pour le perfectionner, pour que le gars puisse être plus dans le Seigneur. Puis c'est ça. On a toutes des choses qu'on n'est pas capable de sortir, puis Dieu sait que c'est là, puis il nous reste dans nos problèmes justement pour qu'on apprenne qu'on n'est pas meilleur que les autres, qu'on est devant lui, on est tous égaux, mais on est tous des pardonnés, puis on a juste à continuer à demander pardon quand que ça arrive, puis il nous aime au bout. Il dit parce qu'il nous aime au bout qu'il fait ça. Alléluia. Dieu jugera, on parle des jugements de Dieu, plus sévèrement, parce que là on parle de jugement là, pour essayer de nous corriger, mais il va juger plus sévèrement ceux qui abandonnent sa voie. C'est aussi écrit dans Hébreux 10, le verset 26. Ça parle à des chrétiens. Il y a plus qu'un passage dans toutes les idées que je vous apporte. Il y a plus qu'un passage. J'en amène juste un à chaque fois. Mais il y en a d'autres passages. Dans ce verset-là, ça dit, « Car si nous péchons volontairement... » Là, on parle de quelqu'un vraiment rebelle. Là. Il sait que c'est quoi le chemin. Il a accepté Jésus dans sa vie. Puis là, il décide de tout balancer. Puis là, il est dans le péché. Là. Il marche dans la débauche. Il a abandonné le Seigneur. Puis même, plus, tu regardes le texte, il a même renié le Seigneur dans ce texte-là. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, on parle d'un chrétien né de nouveau. Là. Il reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a pas d'autre sacrifice que le sang de Jésus. Si tu rejettes ça, là, il n'y a plus d'autre chose là, pour te réchapper, pour te sauver. Tu commences à t'égarer, là tu es en train de te perdre au bout. Là. Tu pêches volontairement, tu avances dans le péché, puis il n'y a plus rien. Tu sais, tu as abandonné la voie sainte. Il n'y a pas d'autre sacrifice, mais une attente terrible, le verset 27, une attente terrible du jugement. Pour le chrétien qui a abandonné, une attente terrible du jugement de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voyez-vous, des passages là qui disent qu'il n'y a pas de jugement pour les chrétiens, c'est pas biblique. Quelqu'un qui pense de même, là, il n'a pas compris ce qu'il est enseigné. Les versets n'en parlent que Dieu, il surveille ses enfants, il veut nous corriger, mais quand la personne ne veut plus rien savoir, c'est encore pire comme jugement que ces gens-là vont recevoir. Ils vont être jugés comme des rebelles. Au verset 28, le verset suivant, il dit, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. » Dans ce temps-là, là, la peine de mort. Celui qui maudit son père et sa mère, paf, il est à mort. Peine de mort, il est lapidé. Il y a plein d'affaires, une pécheresse prise en adultère, lapidé tout de suite. Dans ce temps-là, c'était le même dans la loi de Moïse. Puis là, il continue avec l'idée dans le Nouveau Testament. Il dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? » Imaginez, le texte s'adresse à quelqu'un qui a connu la vérité. Mais là, il est rendu qu'il foule aux pieds. Je veux rien savoir du Fils de Dieu. Il foule à ses pieds. Il rejette. Qui a tenu pour profane le sang de l'Alliance. Celui qui est chrétien, puis qui est dans le péché par de sa tête de même, puis qui dit, le sang de Jésus, c'est pas mieux que du sang d'un animal. Puis c'est, tu sais, il y a... Quelqu'un qui blasphème comme ça, là, puis par lequel aussi qu'il a outragé l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, qui dit que l'Esprit qui est en Jésus, c'est Satan. Si quelqu'un est rendu à ce point-là, là, dans ces trois points-là, car nous connaissons, au verset 30, nous connaissons... Celui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dans un autre passage, ça dit, mieux valait jamais avoir connu que de s'en détourner après avoir connu. Il est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien lavé est allé se revautrer dans le bourbier. La truie lavée, le chien est allé manger son vomi, puis la truie est allée laver, est allée se revautrer dans le bourbier. Quand tu t'abandonnes le Seigneur, tu retournes te corrompre dans tes corruptions. T'étais mieux de pas l'avoir connu que de l'abandonner. C'est pour cela qu'il y a un jugement plus sévère pour ceux qui abandonnent les voies du Seigneur. Lors de l'enlèvement, Jésus, il revienne, il dit, toutes les nations vont être devant lui. Il sait, il connaît ses brebis, Seigneur. Ça va être un jugement fatal pour ceux qui sont pas bouillants pour le Seigneur. Ceux qui marchent pas dans le Seigneur. Ceux que leurs lampes sont éteintes. Pour que ta lampe soit éteinte, il faut que tu sois complètement déconnecté avec le Seigneur. Tu n'as plus de lumière dans ta vie. L'Esprit Saint s'est retiré. Ça existe, il en parle dans le Nouveau Testament, des gens qui ont été réprouvés. Réprouvés, ça veut dire, tu n'as pas passé le test. Même si tu t'as marché un bout avec le Seigneur, ta vie est tout croche, puis tu veux pas vraiment te repentir, tu t'es rushé, tu es un reject, pareil comme ceux qui passent, qui travaillent dans une machine, les objets passent devant toi, puis il y a un objet qui est sorti tout croche parce qu'il a mal passé dans le moule, ils pognent cet objet-là, puis ils jettent dans le crocheur pour qu'il soit à repasser une deuxième fois. Bien sûr, on passe tout devant le regard de Dieu dans notre vie, puis il voit si on l'aime ou si on ne l'aime pas, si on veut le suivre, si on ne veut pas le suivre. Si on défaille, il veut nous corriger. Si on marche vraiment, qu'on ne veut plus rien savoir, puis qu'on l'a rejeté, puis en plus on crache là-dessus, bien là, ceux-là, ça va être encore pire. Dans Matthieu 25, le verset 10, ça nous parle des paraboles des 10 vierges. Pendant qu'elle allait en acheter de l'huile parce que leur lampe était éteinte, il y avait 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient encore allumées avec leur lampe qui était allumée, mais il y en avait 5 que leur lampe était éteinte, puis il n'y avait même plus d'huile. Puis l'huile là-dedans, ça représente la présence du Saint-Esprit. Tu peux pas éclairer sans présence du Saint-Esprit. Si tu n'es plus connecté que le Seigneur, lorsque le Seigneur reviendra, tu ne seras pas dans la gang de ceux qui vont être enlevés. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à l'Église. Il faut être des vrais chrétiens puis garder le contact avec le Seigneur. Vous avez le droit de dire amen de temps en temps. Alors regardez ce qui est arrivé à celle qui était sans huile quand le Seigneur y est revenu. Pendant qu'elle allait acheter de l'huile, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Pourtant, il était 10 qui attendaient, n'ing 5 qui est rentré. Ça veut dire qu'il y a un jugement du Seigneur là-dessus, là. Le Seigneur a pris celles qui étaient prêtes. Il connaît les prêtes. Puis les autres rentreront pas. S'ils se repentent pas, s'ils marchent pas dans la présence de Dieu, ils rentreront pas. Puis c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il a répondu, « Je vous dis en vérité, je vous connais pas. » Ils n'ont pas pu rentrer. Il est trop tard. Il a manqué l'enlèvement. Le jugement fatal est arrivé. Le destin est clos. Ils s'en vont pour être séparés d'avec le Seigneur éternellement. Ce même jugement est répété dans l'Apocalypse, dans Apocalypse 3:16. Ça nous dit, « Parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Il faut marcher avec le Seigneur, frères et sœurs. Restons connectés avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre place que rester en lui. Et vous allez le voir avec le dernier verset, je vous dis qu'il y a rapport encore à ces idées-là. Dans l'éternité, chaque chrétien passera devant le jugement du Seigneur pour recevoir des récompenses ou des reproches. Veux, veux pas, Dieu, il sait tout ce qu'on fait dans notre vie chrétienne. Puis si on se repent pas, il nous pardonnera pas, mais il va avoir quand même, on va avoir des comptes. Ça dit, il va faire rendre compte à ses serviteurs dans une parabole. Puis il va donner à un 10 talents, puis parce qu'il en avait 5, puis il était rendu à 10, il va lui donner 10 villes. À l'autre, il était rendu à 4, il en avait reçu 2, il était rendu à 4. Il va avoir le gouvernement de 4 villes. Il y en a un qui en avait 0, il a enterré sa vie, il n'a même pas rentré. Ils ont enlevé son talent, puis l'a donné à celui qui en avait 10. Fait que veut, veut pas, les chrétiens passent devant le jugement du Seigneur. Puis le Seigneur voit comment est-ce qu'on l'a servi ou si on a une vie enterrée dans le Seigneur. Puis il n'est jamais trop tard pour commencer à servir le Seigneur. Là. Même si ce serait la dernière minute avant de te convertir, comme le larron à la croix. C'est converti, il n'a pas servi longtemps, mais il a commencé à prendre position pour Jésus de suite. Aussitôt qu'il s'est converti, il a défendu Jésus devant l'autre. Puis le temps qu'il restait à vivre, il a servi le Seigneur de la seule façon qu'il restait, c'était de parler pour le Seigneur. Mais pour nous, on a encore des années devant nous, servons le Seigneur de cordelettes les oreilles molles. Comme vous disiez tantôt, dans l'éternité, chaque chrétien va avoir à répondre devant le Seigneur. On passe devant comme un tribunal, le tribunal de Christ. Il y a encore des jugements, pas un jugement pour nous condamner, des jugements pour récompenser ou pour faire des reproches. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 9. C'est pour cela que nous efforçons de lui être agréable. Est-ce qu'on fait des efforts pour être agréable au Seigneur? Si oui, il le voit. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons, on veut être agréable au Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous, moi avec, va falloir que je me présente, puis mais ça c'est mon tour, Daniel Poulain. Là, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Il va nous montrer toutes les bonnes affaires pour récompenser, mais il va nous montrer aussi les pas belles. Pour peut-être, là, il va nous dire, « Oui-tu, là, cette fois-là, tu aurais pu faire ça. Oh, ouais. » Mais là, j'espère, je demande pardon tous les jours. Est-ce qu'on peut, on est comme Jésus, puis qu'on peut dire, « Tout est accompli dans notre vie. » On a manqué beaucoup de bouts. Qu'on aurait pu faire quelque chose pour le Seigneur, puis on ne l'a pas fait. Si on a la crainte de Dieu, on va tenir compte de cela. Puis on va faire attention. On va mettre des efforts. Il dit, au début de ce verset-là, il dit, nous nous efforçons de lui être agréable. On va mettre des efforts pour être agréable au Seigneur. Amen.
Amen.
Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ et que chacun reçoivent selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On est en Jésus, on fait du bien puis on fait du mal, puis le Seigneur voit tout. Pour ça, moi, je vous enseigne à demander pardon tous les jours. J'ai entendu un pasteur qui a dit qu'on n'a pas besoin de demander pardon. C'est pas biblique, pas tout. Moi, je vous explique qu'il faut demander pardon tous les jours parce qu'on en fait tout. Si tu veux rester en garder ta communion, il dit, si tu confesses tes péchés, il dit, il est fidèle et juste pour te pardonner puis de te purifier de toute iniquité. Quand tu demandes pardon, il te pardonne parce que Dieu il est fidèle, il est juste. Il ne te renotera pas quelque chose qui t'a pardonné. Fait que si on demande pardon tous les jours, il va avoir moins de remontrance à nous dire en du haut bord. Puis là, regardez bien au verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Est-ce que vous comprenez que c'est important d'avoir la crainte du Seigneur? Crainte Dieu dans notre marche. Dieu est Dieu, puis on est ceux qui vont comparaître devant lui. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire? Je cherche à vous convaincre. Puis à votre tour, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez chercher à les convaincre d'avoir la crainte du Seigneur, parce qu'il va nous amener en jugement à la fin. Puis si t'es chrétien, tu vas recevoir des récompenses, tu as demandé pardon, il va y avoir moins de reproches. Mais ceux qui ne font pas, qui sont non repentants, je ne veux pas être à leur place. Puis là, il ajoute, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Puis là, ce qu'il dit dans l'autre bout, il dit, Dieu nous connaît. Dieu, il vous connaît. Chacun de vous, il vous connaît. Puis j'espère que dans vos consciences, vous le connaissez aussi. Jésus nous a averti que le jugement serait sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, même les choses en cachette vont être révélées. Y a-t-il un « ouch » là-dessus? Regardez bien le verset, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 12, le verset 3. Puis là, il parle à des chrétiens, il parle à ses disciples. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, ça c'est en noirceur, sera entendu dans la lumière. Jésus nous avertit. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, il est en train de parler à des chrétiens. Réalisons que toutes nos paroles sont regardées, écoutées, entendues par Dieu, même les choses à cachette, en noirceur. Puis là, il nous ajoute, Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps puis qu'après ils ne peuvent rien faire. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Jésus nous enseigne la crainte de Dieu. Il dit, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Il dit ça à ses disciples. Fait que apprenons la sainte crainte de Dieu. Faisons attention à ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Puis si on tombe, demandons pardon. Attendons pas à faim ou attendons pas qu'il vienne un jour et qu'il nous serre à la vis. Il ne serre pas à la vis à tous les jours, là, mais faut pas attendre que ça arrive. Tous sont avertis de craindre Dieu et de craindre son jugement. Puis je finis avec un dernier verset. Puis ce verset-là, c'est pour encourager tout le monde. Pour ceux qui aiment le Seigneur puis qui marchent avec lui, dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des jugements, mais il n'y a pas de condamnation si tu es en lui. C'est pour ça que la Bible nous demande « demeurez en lui ». Si je demeure en vous, que ma parole demeure en vous, demeurez en moi, je demeure en vous. Il y a plein de versets qui disent ces idées-là. Demeurez en Jésus. Cherchons pas, d'autres, pas grave d'être en Jésus. Puis là, il retourne dans le monde. Aïe, aïe! Il n'y a pas de condamnation quand tu es en Jésus. Contrairement à ce que le monde pense, il dit, quand tu as accepté Jésus, il n'y a pas de danger de perdre ton salut. Une fois sauvé, toujours sauvé, puis il n'y a pas de problème. C'est archi-faux, cette doctrine-là. C'est pas à cause que tu as accepté Jésus il y a 25 ans que tu es automatiquement encore sauvé 25 ans plus tard si tu marches tout croche, puis tu n'es pas en Jésus. Tu fais partie des rebelles, puis qu'un feu va dévorer les rebelles. Si aujourd'hui, tu entends sa voix, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur, demeure en lui, aime le Seigneur de tout ton cœur. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen.